Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdivois sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Bienvenue dans Biotope, votre émission qui relate les initiatives de citoyens, d'institutions, d'associations et d'entreprises qui font en sorte que cette vallée de la Drôme est la plus bio possible. Aujourd'hui, je suis aux Amanins, dans l'école du Colibri, avec Isabelle Peloux pour parler de cette école qui a quand même 8 ans de recul, pour parler de son expérience. Madame Peloux, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est pas tous les jours qu'on fait une école alternative. Pourquoi éprouve-t-on le besoin de créer une école alternative ?
Alors, ma réponse va être curieuse, parce qu'au départ, il n'y avait pas de besoin. C'est-à-dire que j'étais enseignante depuis très longtemps, j'ai été formatrice à Lyon pour les futurs enseignants, donc je connaissais bien la partie. Au moment du montage du projet des Amanins, on s'est posé la question d'accueillir des classes de découverte. Mais il n'y avait pas de question de projet d'école sur le site. Et c'est en montant le projet des classes de découverte où on s'est rendu compte que non seulement il fallait leur apprendre l'écologie et la coopération, mais qu'il fallait leur apprendre l'écologie relationnelle, qu'un jour on s'est dit, mais on pourrait faire une école primaire pour montrer comment faire. Parce qu'en France, ça n'existait pas. Donc ça a été plutôt dans l'histoire d'être pionnier, d'expérimenter quelque chose. Voilà. Dans le projet des Amanins, donc quand on a commencé en 2006, on s'est très vite rendu compte qu'on ne savait pas coopérer, nous les adultes, même si on arrivait tous avec des très belles intentions et des très belles idéologies. En fait, on ne savait pas faire. Du coup, on a utilisé des outils de coaching habituels et on s'est dit que ça valait sans doute le coup de les transmettre aux enfants, de façon à ce que quand ils arrivent adultes, ils soient équipés pour savoir comment coopérer.
Plus on commence tôt, mieux ça vaut.
Ben voilà.
Je ne sais pas si vous connaissez ce fameux adage taoïste. Il est très difficile de détordre la queue du chien.
Voilà.
Donc plus on la détord tôt, mieux on se porte. Ceci dit, donc, le projet du Colibri n'était pas initialement prévu aux Amanins, alors ?
Non, ce qui était initialement prévu, c'est de donner une grande part à l'éducation, parce que les deux phrases de base du projet sont « Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ?» et « Quels enfants laisserons-nous à la planète ?» Et pour traiter cette deuxième question, on avait pensé accueillir les écoles, les collèges, les lycées. Mais du coup, on continue à accueillir les écoles, les collèges et lycées. Et pour nous, c'est vraiment très important, parce que surtout en collège et lycée, c'est vraiment des âges où c'est vraiment important de les renseigner sur ces questions-là. Et à l'école, c'était vraiment de mettre en application ce qu'on a développé ici de très spécifique, qui est d'apprendre la coopération, partir du principe que la coopération, ça s'éduque. En fait, manifestement, c'est pas si basique que ça chez l'humain. Il faut qu'il apprenne.
Et alors, quelqu'un qui aurait appris la coopération dans un monde de compétition ne serait-il pas désavantagé ?
Au contraire, parce qu'il a du recul, il va moins souffrir de la compétition. Il a moins de chances de se retrouver du côté des perdants, parce que n'oubliez pas que la compétition veut dire qu'il y a beaucoup de perdants, puisqu'il faut qu'il y ait des gagnants. Voilà. Mais la compétition, ici à l'école, on ne l'a pas complètement mise à la poubelle. On va s'en servir pour son bon côté, qui est l'émulation. Parce que l'émulation me fait donner le meilleur de moi-même. Il me fait faire un effort supplémentaire pour être fier de moi. Donc elle est bonne. Ce qui n'est pas bon, c'est la compétition qui humilie. Et la compétition qui est à tout prix au prix de l'écrasement de l'autre. Celle-là, évidemment, nous, on ne va pas la servir. En pédagogie, il faut toujours mettre de l'eau dans son vin. C'est-à-dire que s'il y avait une bonne méthode de pédagogie ou d'éducation, évidemment, il y aurait déjà un livre d'écrit et on ferait tous la même chose.
Il en existe quand même. Hein. Je pense à Steiner, Montessori ou Freinet. Ça existe.
Mais chaque méthode n'est qu'une méthode. C'est-à-dire qu'après, c'est de l'humain qui applique cette méthode. Et en fait, chaque être humain et chaque responsable doit s'approprier la méthode pour faire avec ce qu'il est lui et que son apporter sa propre richesse et être créateur dans le travail qu'il veut faire. Or, pour s'approprier ça, il faut pouvoir se décoller de ceux qui nous ont appris. Voilà. Donc, bien sûr que Steiner a écrit des livres extraordinaires, Marie Montessori a fait des très belles recherches, nous, on s'inspire beaucoup des outils de Freinet, de Crowley, Oury. Mais on les a adaptés et on les adapte au quotidien avec les enfants. Moi, j'aime beaucoup dire que je suis une chercheuse en pédagogie. Parce que j'ai chaque année des enfants que je n'avais jamais rencontrés, avec des problématiques que je n'avais jamais vues, et avec voilà, mon esprit de chercheuse qui est titillé et qui a très envie de comprendre mais comment il marche celui-là, par quelle entrée il faut que j'y aille, comment est-ce qu'il perçoit l'information, puis il faut que je trouve.
Donc vous avez fait votre sauce, votre propre synthèse avec un certain nombre d'expériences et de pédagogie autres. Et alors, si vous pouviez nous la résumer, votre pédagogie, comment vous travaillez avec ces enfants ?
Alors, la première chose qu'on fait avec eux, c'est qu'on utilise alors la pédagogie de type Freinet, celle-là, c'est ce qu'on appelle la pédagogie institutionnelle. C'est-à-dire que dans les différentes méthodes d'apprentissage, on apprend par imitation, ensuite on apprend en s'appuyant sur des savoirs qu'on a déjà, et on s'est rendu compte qu'une des très bonnes manières d'apprendre, c'est de chercher soi-même et d'expliquer à un autre ce qu'on a trouvé, parce qu'en le trouvant soi-même, en le formulant à un autre, ça nous permet de l'intégrer. Cette façon d'apprendre, elle est bien connue de tout le monde, c'est-à-dire que les enseignants, en général, c'est eux qui expliquaient à leurs élèves comment il faut faire. Mais du coup, c'était les enseignants qui étaient de plus en plus forts, ce qui n'était quand même pas la volonté de l'école, a priori, c'était d'apprendre aux enfants. Donc on va essayer le plus souvent possible que ce soit eux qui sont mis dans une posture de recherche. Donc ça, c'est vraiment le travail de l'enseignant, c'est la préparation avant. Dans cette posture de recherche, l'enfant cherche tout seul, a des tas d'outils à sa disposition pour appuyer sa recherche. Ensuite, il va émettre des hypothèses et il va les vérifier avec les autres pour construire son nouveau savoir. Et là, en le construisant et en l'expliquant aux autres, il va l'acquérir. Cette méthode, elle est connue depuis bien longtemps et très peu utilisée sur le terrain. Donc quand j'étais à Lyon formatrice, je m'étais posé la question de mais pourquoi est-ce que les enseignants ne l'utilisent pas alors que tout le monde est convaincu que c'est celle qui marche le mieux, qui est la plus efficace. Ça ne veut pas dire que c'est la seule, hein. Bien sûr, nous, on continue à faire des cours frontaux de façon classique de temps en temps. On fait de l'accompagnement individuel. Les enfants font des exercices d'ancrage. Enfin, voilà, on utilise plein de différents outils, mais c'est celle-là qu'on a mis en avant particulièrement. Et quand je demandais aux enseignants pourquoi ils ne le faisaient pas, il y avait deux raisons principales. La première qui venait, c'était toujours la gestion du groupe. On ne sait pas gérer le groupe, et puis du coup, ça fait du bruit, ça génère des conflits, on ne sait pas faire, donc on a arrêté. Et la deuxième question qui était plus pédagogique, elle était du type, les enfants ne savent pas s'échanger leur stratégie mentale, ils échangent des réponses. Et effectivement, d'échanger des réponses, ça ne fait pas intégrer le savoir, ça ne marche pas. Donc voilà, moi j'ai vraiment étudié de près, et donc sur les stratégies mentales et comment s'échanger des stratégies mentales et non pas des réponses, ici on fait beaucoup travailler les enfants dès qu'ils sont en cours préparatoire sur comment as-tu fait dans ta tête. Et on leur apprend à décrire la démarche pédagogique qu'ils ont suivie pour arriver à donner leurs réponses. Et à force de décrypter ça, ils prennent l'habitude de le mettre en dialogue. Et du coup, quand ils arrivent au cycle 3 et qu'ils peuvent commencer, donc le cycle 3, c'est à partir du CE2, quand là, ils peuvent commencer à travailler en équipe, ils sont capables d'échanger des stratégies mentales. Plus petits, c'est trop difficile pour eux. Donc c'est vraiment avec l'enseignant que ça va se faire. C'est plus difficile et de toute façon, la coopération n'a pas tellement de sens avant 8 ans. 7-8 ans, parce qu'avant, l'enfant, il est en construction de lui-même par rapport à lui-même. Il ne peut pas tout faire en même temps. Et donc, il va falloir attendre qu'il ait 7-8 ans, que le passage de l'Oedipe soit fait pour qu'il puisse commencer à travailler avec les autres et vraiment avoir du bénéfice à partager ses stratégies avec celles des autres et s'enrichir de celles des autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la gestion du mental, c'est-à-dire comment je gère mon mental, comment je fais différents gestes dans mon mental pour apprendre. Donc ça vient d'un monsieur qui s'appelle Antoine de la Garandrie. Mais là aussi, aujourd'hui, c'est de la sauce école du colibri, quoi. À force de pratiquer, on a fait nos propres découvertes. Et puis aujourd'hui, les neurosciences viennent complètement valider tout ce que ce monsieur avait trouvé et a des apports encore différents sur cette recherche-là. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des enfants qui ont des difficultés à prendre l'information. Il y en a d'autres, c'est pour ranger l'information dans leur tête et faire les liens. Et il y en a d'autres, ça va être pour restituer l'information. Donc il y a trois types de difficultés rencontrées à l'école. Donc nous, on va aider les enfants à partir de ça.
Alors pour nous aider un petit peu à comprendre, c'est très beau tout cela, et comment ça se passe dans un cours alors?
Alors par exemple, en maths et en français le matin, là, ils travaillent par niveau, donc on a 35 élèves du CP au CM2. Donc par exemple, on va dire, les CE2 travaillent ensemble, ils ont des problèmes de maths à résoudre. Ces problèmes de maths, déjà nous à l'école, par exemple, on ne dit plus qu'on va faire des problèmes, on dit qu'on va faire des enquêtes. Parce que quand on dit à des enfants qui vont faire des problèmes, il y en a déjà la moitié qui ont démissionné dans leur tête en disant « Oula, des problèmes, ça va me poser des problèmes, il faut que je cherche où est le problème. » Et ils sont partis déjà dans la mauvaise énergie. Donc on les rend enquêteurs, et là, ils adorent, et ils partent « Super, on va faire des enquêtes. » Ils vont d'abord avoir un temps de recherche individuel. Ce temps, il est fondamentalement important parce que je trouve ou que je ne trouve pas, ce qui est important, c'est que j'ai cherché. Parce que si je n'ai pas cherché, que je vais échanger des stratégies mentales avec les autres, les stratégies mentales des autres ne vont pas du tout m'éclairer puisque je n'aurais pas cherché. Donc je me mets d'abord en recherche. Là, ils savent qu'ils trouvent ou qu'ils ne trouvent pas, ça n'a pas d'importance. Ensuite, ils vont se mettre par trois. En général, c'est les trois premiers confinés vont se mettre ensemble, ensuite les trois suivants. Ou alors les équipes peuvent être faites à l'avance, ou alors on va faire choisir l'enfant en difficulté avec qui il a envie d'aller partager parce qu'il y en a avec qui il n'est pas confronté au sentiment d'être nul, avec d'autres ça ne le fait pas, donc on va le laisser choisir. Et donc là, ils vont se mettre par trois. Dans leur échange, mettons qu'il s'appelle A, B, C, A va donner sa réponse, si B et C sont d'accord, il passe. A donne sa réponse, B n'est pas d'accord, C non plus, donc A va essayer d'expliquer comment il a fait dans sa tête. Quelquefois en expliquant, il va se rendre compte de son erreur. Quelquefois en expliquant, il va se rendre compte que les deux autres se sont trompés. B et C vont essayer de le convaincre que c'est eux qui ont raison. Donc, ils vont expliquer leur stratégie. Donc, ils vont faire cet échange de stratégie jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord sur une réponse. Quelquefois, ils n'y arrivent pas. S'ils n'y arrivent pas, la consigne est simple. Soit A laisse sa réponse, soit il ne met pas de réponse. Comme ça, quand il va revenir voir l'enseignant, il pourra lui dire, bah là, je n'ai pas trouvé. Et puis, si jamais B dit, mais oui, bien sûr, A, tu as raison, il a le droit de mettre la réponse de A. Mais avant de mettre la réponse de A, A va lui dire, il faut d'abord que tu me reformules pourquoi tu écris cette réponse, il faut que tu me la réexpliques, de façon à ce qu'il fasse le travail d'intégration du savoir. Et donc, si B est capable de réexpliquer, A lui dit, c'est bon, tu peux réécrire la réponse.
Et ça,
entre eux, ils le gèrent très bien. C'est-à-dire que si B n'est pas capable, à la fin, ils viennent me voir tous les trois, parce qu'à la fin du travail, ils viennent chaque fois voir l'enseignant référent et lui disent si ça s'est bien passé dans la relation entre eux et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la compréhension. Et souvent, la question, c'est tout simplement, est-ce que tu saurais refaire tout seul? Ben, celui-là, oui, cette enquête-là, oui, mais celle-là, non. Et du coup, nous, on sait exactement où ils en sont. Et avec cette méthode-là, l'enseignant intervient très peu. Il est vraiment le facilitateur, le gérant du cadre. Tout l'art de l'enseignant, c'est de se créer la situation de recherche la plus intelligemment possible pour que les enfants puissent trouver et se poser les bonnes problématiques. Donc en fait, c'est un travail difficile, ça, c'est un travail en amont. Et ensuite, pendant le travail, ça va être la facilitation du groupe pour qu'ils ne s'arrêtent pas sur des histoires relationnelles. Parce que c'est ça qui se joue beaucoup.
Et ça, c'est valable pour toutes les matières.
Alors, ça, c'est surtout en maths et en français qu'on travaille comme ça. L'après-midi, on est plutôt dans ce qu'on appelle une pédagogie de projet. C'est-à-dire qu'on va avoir des projets interdisciplinaires, on va mélanger disciplines. Quelquefois, on aura des heures de musique, que de musique. Ça ne sera pas forcément rattaché à un projet. Et là, on va pouvoir varier les pédagogies. Ça ne sera pas toujours la pédagogie de recherche comme ça. Mais si ça s'y prête, on va le plus souvent possible l'utiliser. Parce que vraiment, en termes de ce qui reste à l'enfant après, c'est très efficace. C'est beaucoup plus efficace qu'un cours frontal. Un cours frontal, il ne reste pas grand-chose. Hein. Surtout avec les enfants d'aujourd'hui qui zappent quand même très rapidement. Et puis, l'accumulation de savoir ne donne pas l'intelligence. Hein. Après, il faut savoir les trier, il faut savoir les hiérarchiser. Ce qu'on a à apprendre à l'école aujourd'hui, c'est trier l'information, parce qu'ils ont accès à l'information. Donc, il faut la trier, la hiérarchiser. C'est excessivement difficile pour des enfants de primaire. Et puis, ensuite, prendre du recul et donner, avoir l'esprit critique. Et ça, apprendre à avoir l'esprit critique, ça prend du temps. Donc nous, on a mis en place pour pallier à ces difficultés et pour les faire rentrer en apprentissage méthodologique deux temps dans la classe. Donc le lundi matin, ils font des ateliers philo. Donc ça, c'est absolument passionnant. Les enfants apprennent à réfléchir par eux-mêmes, à formuler leurs pensées, à argumenter, à écouter la pensée de l'autre, à voir que leur pensée peut bouger, qu'elle n'est pas figée, qu'il n'y a pas une seule vérité, qu'il y en a plusieurs. Et nous, ce qu'on constate avec les années, c'est que les enfants, d'abord nous, là maintenant, ils se le transmettent tout seuls, hein, on n'intervient plus, parce que là, c'est le grand groupe, les petits avec les grands, tout le monde ensemble. Et du coup, ce sont les grands qui transmettent aux plus jeunes. Et on a une qualité d'intervention où les enfants passent par l'exemple, mais beaucoup moins qu'avant. Ils sont très rapidement dans le concept. Hein, ils arrivent à donner l'exemple et à dire, tiens, ça parle de telle chose dans l'exemple. Voilà, et puis nous, ce qu'on constate, c'est que ça leur apprend le discernement et la tolérance. C'est-à-dire que ça nourrit beaucoup la tolérance entre eux. Et nous, les adultes, on n'intervient absolument pas. Parce que sinon, pour les enfants, dès que l'adulte intervient, c'est l'adulte qui a raison. En école primaire, l'enfant a encore besoin de grandir en se disant que les adultes qui sont autour de lui sont bons et ont la vérité. Donc si nous, on intervient, il n'y a plus d'atelier philo. C'est la maîtresse a dit ça, c'est juste, donc on s'arrête. Donc nous, il faut qu'on reste neutre, ce qui est très difficile, parce qu'apparemment, ils disent des choses très mignonnes, très touchantes, qui donnent très envie de rigoler. Il faut se retenir, parce que sinon, ça fait un jugement, même si on encaisse. Pour vous donner une idée, moi, je fais la secrétaire, parce qu'on a essayé de leur faire faire la secrétaire, mais ils sont trop petits. Donc c'est moi qui écris tout ce qu'ils disent, de façon à ce que quelquefois, on s'arrête, on ne fait que leur relire ce qu'ils ont dit, puis ils continuent. Et quelquefois, ils se répètent, donc je n'écrivais pas tout. Jusqu'au jour où un enfant m'a dit « Mais j'ai bien vu que ce n'était pas intéressant ce que je disais puisque tu ne l'écrivais pas. » Donc maintenant, j'écris tout ce qu'ils disent. Chaque fois qu'un enfant passe, j'écris quelque chose parce que pour qu'il n'y ait vraiment aucun jugement sur la parole émise. Voilà. Et donc vraiment, c'est un des moments de la semaine privilégiés, celui-là. J'aime beaucoup. Et puis, on a mis en place un autre moment dans la semaine qui s'appelle un moment d'éducation à la paix. Donc là, on s'appuie sur la phrase de l'UNESCO qui dit que puisque les guerres naissent dans l'esprit des hommes, semons-y la paix. Et donc le pari, c'est qu'en apprenant aux enfants à avoir des relations qu'ils essayent de gérer de la façon la plus pacifique possible, arrivés adultes, ils sauront faire et ils pourront réutiliser ces outils-là. Donc on va leur apprendre à être en paix avec eux-mêmes. Donc être en paix avec soi-même, c'est travailler sur les états émotionnels. Et donc on va parler des émotions et on va apprendre à les gérer correctement. C'est-à-dire que c'est OK que tu sois en colère, mais c'est pas OK que tu tapes sur l'autre parce que tu es en colère. Qu'est-ce que tu fais de ton émotion? Et ça, ça dépend de toi. Donc, on va leur apprendre à les gérer par des exercices qui passent par le corps. On va leur faire faire de la relaxation. Ils ont un coin du beau parce que les enfants ont repéré que ce qui était beau, ça faisait du bien. Et donc, quand je vais pas bien, je peux aller dans ce coin où il y a des belles choses pour me faire du bien. Et donc, chaque semaine, il y a 2 ou 3 enfants qui sont responsables du coin du beau. Et là, on les voit revenir de vacances avec des choses. Voilà, c'est important pour eux. Ils ont une boîte à soucis, enfin voilà, c'est les différents outils, ils font des mandalas, enfin voilà, ils ont à leur disposition différentes choses pour gérer leurs états émotionnels. Et sinon, après, c'est être en paix avec les autres. Et donc, être en paix avec les autres, là, on est sur l'apprentissage de la médiation. Donc, on leur apprend la médiation, parce que la médiation, en fait, les enfants sont étonnants. En 2 ou 3 séances maximum, ils ont appris le métier de médiateur. Ça, ils comprennent très vite comment ça marche. Par contre, ils ont, comme nous les adultes, ce qui est difficile dans une médiation, ce n'est pas la médiation en elle-même, c'est de demander une médiation. C'est-à-dire qu'en général, nous les adultes, quand on demande une médiation, c'est que le conflit est déjà largement entamé, et en général, c'est pour clore le moins gravement possible la situation, mais en fait, le lien est cassé. Et là, on essaye de leur donner le réflexe de demander une médiation le plus rapidement possible pour éviter chaque fois qu'elle ne serve que dans les cas extrêmes, mais qu'elle devienne comme une culture de la relation. Ça va pas, on va demander à un troisième de nous aider. Voilà. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on insiste beaucoup. Et puis on fait faire beaucoup de jeux coopératifs, parce que les jeux coopératifs ont cette fonction très intéressante. À travers un jeu, on apprend des postures qui aident la coopération. Et notamment, on apprend tout simplement à penser à coopérer, à quitter justement cette fameuse compétition qui est là de façon assez naturelle. C'est-à-dire que d'abord, on sauve sa peau, ce qui est normal. Et du coup, par exemple, il y a un jeu où il y a des îles, les enfants doivent courir entre les îles, et puis tout d'un coup, on dit « attention, le crocodile arrive, et il faut monter sur les îles ». Et on s'amuse, les îles sont en papier journaux, on s'amuse à enlever des papiers journaux, donc les îles sont de plus en plus petites. Le premier réflexe des enfants, quand il y en a un qui n'est pas sur les journaux, c'est de lui dire « t'es mort ». Et nous, on leur dit « mais non, c'est un jeu coopératif, il ne faut pas qu'il y ait de mort ». Ah ! Et du coup, il se pose le problème. Et ça, étonnamment, nous adultes, on est un peu sur la même logique. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le premier mouvement qui nous vient que de dire « Ah, comment je vais faire avec les autres ?» On est d'abord à sauver sa peau. Donc voilà, ce sont tous des jeux qu'on utilise beaucoup. Et la dernière chose qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle les intelligences multiples. Donc on essaye d'ouvrir le regard des enfants sur le fait que dans la vie, bon, à l'école, on parle beaucoup des maths et des français, c'est ça la référence, mais qu'il y a plein d'autres façons d'être intelligent. Et notamment dans ces intelligences-là, il y a l'intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire l'intelligence du groupe, et l'intelligence intrapersonnelle qui est de moi-même à moi-même. Donc intrapersonnel, c'est comment je gère mes erreurs dans ma vie, comment je gère mes émotions. Et interpersonnel, c'est comment je suis capable dans un groupe, pour l'intérêt du projet, de laisser tomber mon idée, comment je suis capable de tenir compte de celui qui fait rien, d'aller voir celui qui est en difficulté. Et ce qui est, chaque année, on accueille nous des enfants en difficulté à l'école, donc on en a 5 à peu près, qui sont suivis par la MDPH, qui auraient soit une aide de vie scolaire normalement, soit qui sera en CLIS. Et ces enfants-là, en général, ont l'intelligence interpersonnelle très développée. C'est souvent des enfants très généreux, très observateurs des autres, très attentifs, très coopérateurs. Et du coup, ça nous permet de vraiment mettre ces qualités-là en avant. Donc c'est vraiment intéressant.
Alors, ça m'a l'air passionnant, votre façon de procéder. Mais vous m'aviez dit, lorsqu'on avait pris rendez-vous, que vous suiviez les programmes de l'éducation nationale. Mais je ne les vois pas là-dedans. Enfin, je n'ai jamais entendu parler de jeux coopératifs dans l'éducation nationale, etc.
Les programmes de l'éducation nationale, c'est ce qui concerne le contenu. C'est-à-dire qu'on est une école, on doit instruire. Ça, c'est la base. Et cette instruction est prétexte à éduquer. Et c'est cette éducation qui est différente. C'est ce qu'on propose là qui est différent. Mais l'instruction, bon, ben voilà, on doit leur apprendre à lire, écrire, compter. En histoire, géo, sciences, on a un certain nombre de périodes à couvrir et à faire visiter aux enfants. Maintenant, c'est dans la façon de l'aborder que là, on va pouvoir complètement varier la méthodologie. Ce qui est particulier à notre école, c'est que la façon d'aborder, qui est la pédagogie de projet ou la pédagogie institutionnelle, elle est connue dans le monde enseignant. Mais en général, elle bute sur des difficultés de gestion de groupe. Et les gens, n'ayant pas appris à gérer les groupes, n'arrivent pas à la mettre en place. Donc nous, ici, non seulement on a appris à gérer les groupes, mais on apprend aux enfants à le faire. de façon à ce qu'ils deviennent autonomes à ce niveau-là. Pour nous, c'est un outil fondamental qu'on n'a pas eu, qu'on a dû apprendre adulte. On s'est rendu compte que quand on l'a appris adulte, il a fallu qu'on perde de bien mauvaises habitudes et que ça a été long et difficile. Donc le pari, c'est de dire, on va leur apprendre dès qu'ils sont petits, parce que là, ils sont encore complètement aptes et ouverts. Sur les états émotionnels, les enfants sont très étonnants. Ils n'ont pas encore mis de jugement sur leurs états émotionnels. Ils y vont très rapidement. Ils disent très vite, j'ai été blessé, je suis très triste, là je suis en colère. Je suis en colère, mais je suis aussi triste en même temps. Voilà. Alors que nous, adultes, on connaît tous des gens qui sont arrivés vers nous en hurlant et en disant, mais non, je ne suis pas du tout en colère. Ok. Et pourtant, il semblerait qu'un petit peu quand même. Voilà, donc les enfants, eux, ont cet accès-là. Et le pari, c'est de se dire, mais si on met des mots dessus quand ils sont enfants, si on leur apprend la médiation, si on leur apprend que quand ça ne va pas, on peut demander de l'aide à une tierce personne et qu'on peut avoir l'intention qu'à la sortie, les deux personnes soient gagnantes et que ça s'apprend et que ça existe, on se dit qu'arrivés adultes, ils sauront l'utiliser.
Ça fait 8 ans que vous êtes en activité. Alors, qu'est-ce que ça donne sur des enfants? Il y en a certains qui ont quitté le Colibri, qui ont été dans l'éducation.
Voilà, donc
alors,
maintenant, on est à notre troisième génération qui est partie au collège après avoir fait ses 5 ans ici. Bon, les retours sont excellents. Hein. Alors, au niveau scolaire, ils sont très bons, mais ça, c'est pas très étonnant, parce qu'en fait, ils ont tellement appris à apprendre que quand ils partent d'ici, ils sont complètement autonomes en apprentissage. Donc, ils savent très bien apprendre leurs leçons. Souvent, ils m'expliquent gentiment que ce qui est dommage au collège, c'est qu'on n'utilise que la mémoire à court terme et que du coup, c'est pas très intéressant. Mais que c'est très facile d'avoir des très bonnes notes. Il suffit d'apprendre ses leçons et on a des très bonnes notes. Mais que dans le fond, on n'apprend pas grand-chose. Ils se plaignent du non-intérêt du collège. Donc ça, c'est un peu triste quand on voit l'appétit qu'ils ont à apprendre. Et voilà. Mais ils reconnaissent tous qu'ils ont des très bons profs. Parmi les profs pas agréables, il y en a quand même toujours plusieurs qu'ils aiment beaucoup. Ils deviennent souvent délégués de classe. Après, ils ne continuent pas forcément, d'ailleurs. Enfin, ils deviennent souvent délégués de classe. Et souvent, ils ont beaucoup de recul sur notamment tous les aspects humiliants qu'ils peuvent rencontrer au collège. Parce que ça, c'est une des choses dont on ne parle pas assez en France, c'est les humiliations entre eux. Mes élèves me parlent souvent d'humiliations d'enseignants, donc ça, c'est carrément grave. Mais aussi entre eux, qu'il y a beaucoup d'humiliations. L'année dernière, j'ai une petite fille qui était particulièrement douée en français et que j'ai beaucoup accompagnée parce que je n'avais jamais vu de ma carrière une enfant aussi forte en production d'écrit. Et quand je l'ai revue au bout d'1 an de sixième, je lui ai dit « Alors, cette année en sixième, tu t'es éclatée, t'as bien... » « Ah non, on m'a traitée d'intellectuelle, alors j'écris à la maison, mais... » pas au collège, quoi. Et que là, on se dit vraiment, quel dommage, quoi. Quel gâchis que l'école n'arrive pas à valoriser voilà, ceux qui sont bons et ceux qui se font plaisir et qui s'épanouissent. Voilà, donc c'est un petit peu les retours qu'on a, en général, ils sont très contents. Et puis vraiment, l'âge du collège, c'est l'âge des copains. Et donc, quand ils m'en parlent, principalement, ils sont très contents parce qu'il y a un self, donc ils peuvent choisir ce qu'ils mangent, et il y a des copains, et ça, c'est trop bien.
Quelque part, vous avez réussi votre mission d'en faire des futurs citoyens.
Écoutez, je pense qu'ils partent bien équipés, ce qu'il y a de sûr. Hein. Et les parents, là, il y en a plusieurs qui me témoignent quelques années après que les enfants, ils ont gardé une trace. Quoi. Une fois, il y a des personnes extérieures à l'école, parce que finalement, moi, je ne me rends pas compte de ce qu'ils utilisent à l'extérieur. Je suis sans doute la moins bien placée, parce que moi, je ne les vois pas à l'extérieur. Et donc, il y avait eu des visiteurs aux Amanins qui étaient venus à l'école et qui leur avaient demandé, mais de ce que vous apprenez là, en éducation à la paix, vous vous en servez quand vous êtes en dehors de l'école? Bon, j'avais été assez touchée d'une petite fille, par exemple, disant bah, « Tu sais, quand je me dispute avec mon frère, que faut ?» Je me dis « Non, mais là, il faut qu'on demande une médiation. Voilà. » Et une autre qui disait bah, « Que faut, je suis dans ma chambre, toute triste, et ça ne va pas bien. Et pour me faire du bien, je pense au coin du beau de l'école. » Et ça me fait du bien.
C'est passionnant, tout ce que vous me dites, mais est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Quel est le prix de scolarité d'un enfant à l'école du Colibri?
Alors ça fait partie des conditions pour que j'ouvre l'école. C'est-à-dire que je ne voulais pas d'une école où ce soit les parents qui payent et que je devienne cliente de mes parents. Donc pour pouvoir avoir une confiance mutuelle avec les parents et assurer mon métier de pédagogue, j'avais besoin que le prix soit peu élevé. Donc bon, on a eu la chance d'avoir Michel Valentin qui nous a servi de mécène. Et puis on a mis en place un système. Donc aujourd'hui, c'est l'association qui se débrouille pour salarier l'enseignante, il y a qu'un seul poste. Et les parents donnent 115 euros par mois, mais dans les 115 euros par mois, il y a la cantine qui est comprise. Donc ça fait à peu près une scolarité de 45 euros. Donc on pense qu'avec ça, on est quand même ouvert au plus grand nombre. Forcément, ça élimine encore quelques personnes, mais on n'a pas pu faire mieux. Les parents, par contre, rendent des services sur l'école. C'est-à-dire que c'est eux qui gèrent le ménage, ceux qui gèrent les travaux, ils gèrent la cantine aussi. Donc ils donnent chacun une demi-journée par mois. de gestion. Sinon, il faudrait qu'ils financent la cantine, le ménage, etc. Et là, ça augmenterait largement la scolarité. Donc ça permet d'avoir un coût qui reste minime et ce n'est pas monnayable.
Et les projets de l'école du Colibri, y en a-t-il ou...
Alors les projets, il y en a, bien sûr, on rêverait un jour de faire un collège. Voilà. Mais sinon, l'idée de l'école du Colibri, c'était surtout de semer et de transmettre, comme tout le centre des Amanins. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ça donne envie soit des enseignants dans leurs propres établissements, même s'ils sont dans l'enseignement public, bien sûr. Il y a des choses à faire dans l'enseignement public et il y a des très bons enseignants qui ont envie d'y rester. Et c'est là où il y a le plus grand nombre d'enfants. Nous, l'objectif, c'était pas forcément dire « faites tous des écoles alternatives » parce que financièrement, c'est quand même très compliqué. Mais par contre, voilà, ce qu'on propose, c'est ouvert à tous les enseignants. Et on a beaucoup d'enseignants du public qui viennent en stage de formation ici. Chaque année, on organise des stages de pédagogie coopérative. On fait le plein tout le temps. Chaque année, on accueille 2 jeunes en formation qui passent l'année ici avec nous. Et on les forme à cette pédagogie et ensuite ils rentrent en master enseignement. Voilà, donc l'idée c'est plus la transmission et l'enrichissement parce que on n'est pas un modèle, on est une façon de faire parmi d'autres. Et bien sûr qu'on a d'autres qui sont très bien et que nous on a toujours à progresser et on a à s'enrichir des autres. Et qu'aujourd'hui, moi j'aimerais en pédagogie qu'on dépasse le débat public-privé mais qu'on soit dans « mais qu'est-ce qu'on fait en éducation ?» et là où on est avec les moyens qu'on a et comment on peut inventer pour les enfants.
Bien, Madame Pelloux, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et je vous souhaite une bonne continuation.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Muriel Fifis, tu viens de fonder une école primaire privée hors contrat qui s'appelle Caminando, qui est basée à Minglon.
Oui.
Bonjour.
Bonjour Louis.
Avec le soutien de quelle structure as-tu fondé cette école ?
Nous, on a choisi de porter cette école par le biais d'une association qui s'appelle École de la Nature et des Savoirs, qui soutient donc l'école primaire Caminando à Minglo.
Raconte-nous un petit peu ton expérience. Quel était ce projet ?
Alors, le projet était d'ouvrir, en fait, en septembre 2013, une école primaire privée, hors contrat, dans un site un peu différent d'une école traditionnelle, puisqu'il s'agit d'un château avec un parc, un potager, une serre, où les enfants profitent énormément de la nature et s'en servent comme support pédagogique.
Pourquoi fonder une école primaire supplémentaire ?
En fait, c'est un constat qu'on fait. C'est qu'en fait, notre école aujourd'hui n'arrive pas peut-être à répondre aux besoins de tous les enfants, en tout cas certains enfants qu'on dit pas forcément dans la norme. Et ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'on est de plus en plus complètement déconnecté du vivant, ou pour le dire plus simplement de la nature, et que c'était notre souhait de remettre en fait ces enfants ancrés dans le vivant.
Cette école qui a démarré en septembre, combien d'enfants accueille-t-elle ?
Aujourd'hui, elle accueille 14 enfants de l'âge du CP, donc de 6 ans, à la classe de CE2, et pense ouvrir donc chaque année une classe supplémentaire. Donc dans 2 ans, on aura les 5 niveaux du primaire.
Je suppose que vous n'êtes pas encore agréé par l'éducation nationale, c'est trop tôt.
En effet, ça prend 5 ans de pouvoir être reconnu par l'éducation nationale. Donc ça veut dire que pour l'instant, c'est une école primaire privée hors contrat.
Quelles ont été les difficultés pour monter un tel projet ?
Je vois 2 obstacles, en fait. À dépasser, avant tout, je pense qu'il faut s'appuyer sur une équipe. Car l'éventail des démarches dans lesquelles on doit se lancer demande des expertises différentes, qu'elles soient administratives, au niveau des dépôts des dossiers, au niveau des locaux, la sécurité, etc. Donc il faut être une équipe bien costaud qui travaille. Et donc c'est vrai qu'un statut associatif permet de voir toute la richesse en fait, des gens qui vont développer ce projet. La seconde chose qui me paraît importante, c'est la recherche de fonds, parce qu'une telle école a forcément un coût. Et donc, il faut avoir quelques capacités, soit on a du mécénat ou des partenaires ou des fonds, des particuliers, des dons. Mais en tout cas, il y a une recherche de financement qui est vraiment prioritaire sur ce type de projet.
Tu peux évaluer un petit peu le montant qui était nécessaire ?
Alors, en fait, le montant dépend du nombre de personnes qui va être salariées dans cette école, c'est-à-dire l'équipe enseignante. Mais par exemple, pour nous, sur une première année, on a un budget prévisionnel qui avoisine 50 000 euros.
Bon, bien sûr, c'est un peu tôt, mais est-ce que tu peux déjà faire un premier bilan ? Es-tu satisfait de là où vous en êtes arrivé ?
Oui, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que les enfants viennent en courant à l'école. Je vois des sourires et de la joie tous les jours. Je vois pas d'enfants en blocage. Je vois des enfants qui sont heureux d'apprendre avant tout, qui se font plaisir et pour qui l'école est avant tout une perspective de rencontre, de joie et de se faire vraiment plaisir à apprendre.
Si des gens sont intéressés pour reproduire une telle expérience, peux-tu donner des coordonnées ?
Oui, le 04 75 21 43 84.
Muriel Fifis, merci.
Merci.
Au revoir.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.